Bonjour, Monsieur Ratchev, comment allez-vous?
Bonjour, Monsieur de Montigny, ça va super bien.
C'est toujours drôle quand on fait comme si on ne se parlait pas avant, là, comme si on venait juste de commencer à se parler, là. On rentre sur
Est-ce que
l'appel.
toi, ça va bien?
Moi, ça va extrêmement bien et ça fait extrêmement plaisir aujourd'hui de parler de capture, de parler des 8 mois de capture, un petit rétrospect sur les 8 premiers mois de cette belle aventure. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va parler un petit peu de nos 8 premiers mois, de nos beaux coups, de nos échecs, de tout ça, pour vous mettre un petit peu en contexte tout le monde. CapGPT, qui est le podcast, mais aussi notre entreprise, qui a plus de 5 ans, mais on a fait un pivot vers un produit qu'on a lancé en janvier, qui est Capture, qui est un chatbot IA de capture de lead. Ce que ça veut dire, c'est que on a développé un produit qu'on peut mettre sur le site de nos clients qui connaît un peu une expérience à la ChatGPT, mais qui connaît essentiellement uniquement les données de notre client, qui répond aux questions et qui, lorsqu'on sent que c'est le bon moment, on va proposer un call to action, une prise d'action pour planifier, entre autres, un meeting. Donc, c'est une idée qui m'est venue à l'automne. J'étais en Italie, sur les plages, sur le bord de la Méditerranée, et j'ai eu cette idée. Pour vrai, en plus, je pense que c'est de là que ça vient. Parce que depuis un bout, je voulais faire un produit. Là, à l'automne, on faisait du développement sur mesure, puis ça coûtait cher, c'était tough, là. Ça allait pas tant scaler l'idée de capture. Et là, on a parti ça. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de. Ben, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, puis de pourquoi tu es là, Monsieur Ratchev. Ça va aussi mettre un peu tout le monde à niveau sur pourquoi on a cette discussion-là ensemble aujourd'hui.
Ben, ça a débuté en octobre, quand je me cherchais un emploi, vu que j'avais quitté mon ancien emploi et c'était le temps de m'en retrouver un nouveau. Et toi, tu avais eu une idée de quelque chose que je pourrais faire pour CapGPT, qui était une sorte de mastermind conférence, le
Ça a
travail en
vraiment bien
groupe.
marché, ça.
Ça a vraiment bien marché. Ouais, ça n'a pas fonctionné.
On l'a même pas
Vraiment
essayé, je
par
pense.
semi-demi, je veux dire.
Ouais.
Ouais, c'était un projet d'école qui aurait mérité un B-, mettons. C'était correct, mais pas à 100%. Puis après ça, par chance, c'est arrivé que tu as eu beaucoup d'offres, de demandes d'offres de services. Et j'ai commencé à faire des offres de services pour des projets de IA ou autres dans le software. Très rapidement, j'ai commencé à travailler dans cet aspect-là. Et c'est là qu'on a eu un bon contrat avec une grosse firme internationale pour faire justement un chatbot pour eux. Un chatbot qui va discuter directement avec leurs clients, qui va répondre à des questions spécifiques sur les produits de cette compagnie. Et ben, tu as eu besoin de quelqu'un qui avait une sorte de rôle de chargé de projet pour ça, pour coordonner les sous-traitants, pour coordonner le client, pour faire un peu de service à la clientèle, l'organisation et tout. Et c'est là que ça a commencé avec ce projet-là. Et ensuite, tu es allé en Italie et tu as eu ton idée pour Capture, qui est justement le produit, le pivot de CapGPT depuis, qui est le chatbot Capture de Lead qui va sur les sites web des compagnies qui ont un certain trafic sur leur site web et qui veulent justement transformer les visiteurs en pistes qualifiées pour par la suite que leur équipe de vente les contacte et essaye de les convertir.
Quand on dit piste, c'est
On
des
dit
leads
leads.
en bon français. Oui, c'est ça. Donc, t'es rentré chez CapGPT pour faire ça. Un rôle de gestion de projet, tu venais du monde de la construction. C'est très similaire,
On
mais
faisait des routes.
tu faisais des routes, là, tu fais des routes d'API. C'est similaire. Donc, c'est ça, on est parti l'idée de capture. On a rapidement vu qu'il y avait un intérêt quelconque là, pour capture. Par contre, on savait pas si ça allait marcher. Puis, tu sais, aujourd'hui, évidemment, ça fonctionne. On a plusieurs dizaines de clients. Je pense qu'on a passé le cap des 30-ish, là. À quel moment t'as su que ça allait marcher? Ou y a-tu un moment en tête que tu t'es dit, OK, ça, y a quand même quelque chose qui fonctionne?
Ben, les points. Les premiers clients étaient un peu. On essayait vraiment, on faisait une partie du développement à nos frais, justement, pour aller chercher plus de clients à prendre simultanément avec eux. Lorsque j'ai appris que ça fonctionnait, point de vue client, c'est quand on en a eu plusieurs, peut-être 7, 8, 9, 10, puis là, je voyais qu'il y avait des vraies conversations, où il y avait des conversations qui en découlaient. La façon qu'on l'avait pricé et les types d'entreprises qu'on ciblait, notre logique était si l'entreprise réussit à avoir un ou deux clients à travers ce service, ça justifie le coût vu que le coût était sur base mensuelle faible. À la fin de l'année, c'était quelques milliers de dollars. Donc, si le client amenait à plus que ces quelques milliers-là, ensuite, tout le reste, c'était du gravy. Donc, dès qu'on a eu un assez bon échantillon, peut-être 7, 8, 9, 10 clients, et j'ai commencé à avoir les conversations qui en avaient de plus en plus, là, je savais que ça allait marcher côté client. Côté KipGPT, quand ce produit allait marcher d'un point de vue interne, c'est lorsqu'on a eu un bon mois ou mois et demi de vente et tout le monde était très encourageant. Ça allait bien. Bravo les gars. C'est cool votre affaire.
Bravo les gars.
Là, je voyais qu'il y avait vraiment un bon potentiel. Le pricing était bon. Le marché, on l'avait bien niché. Donc,
ça, c'est assez. Peut-être pas assez niché encore.
Pas assez encore. Mais on a le branding québécois. On a les business à high ticket value. Ou du B2B avec assez de trafic, on commençait de plus en plus à cibler. On a quasiment été distrait plusieurs fois à des moments où il y avait moins de clients de notre côté qui venaient vers nous ou qui étaient intéressés. Par exemple, l'été, ça c'était moins actif. Il y a du monde qui venait avec des produits un peu parallèles ou connexes, mais pas exactement capture. Puis on a flirté avec l'idée d'aller vers l'avant avec ça. Mais on s'est comme on s'est rappelé que the riches are in the niches.
Ben, tu vois, une chose que je suis fier, par contre, c'est qu'on n'est jamais retourné dans le développement custom. Parce qu'une chose que je te dis pas en secret qui arrive parfois, et là, je te le dévoile à la caméra, c'est que des gens me contactent pour des trucs custom. Et je leur dis non. Puis ils sont prêts à payer cher. Dis non à de l'argent, mais si tu dis jamais non, tu feras jamais. Puis des fois, c'est tough, là, comme tu dis, là, l'été, ça n'a pas été. Tout le monde nous dit ah ouais, c'est cool, on s'en parle en septembre, tu sais. Fait que. Ouais, tout le monde s'en plus. Ouais, c'est ça. Ça a plus recommencé fin juillet, finalement, là. Mais il y a eu un petit creux saisonnial. Puis là, tout le monde te contacte pour du développement custom. Tu te dis, ben non, mais si tu veux un chatbot de capture de lead, on peut s'en parler. Mais oui, c'est là que c'est important de dire non. Tu vois, moi, j'ai su que ça allait marcher quand on a mis le deuxième chatbot, on l'a mis sur une firme de consultation. Puis je pense en 24 heures, il y avait leur premier lead. Puis j'étais comme OK, it's alive, ça marche, dans le sens que tout ça c'était un peu théorique, tu sais, tu dis ben là, les chatbots ça existe, on en met un bon qui répond bien aux questions, le monde va aller leur parler, puis vu qu'on demande pas directement le email machin, ils vont avoir des discussions, qu'on va avoir donné de la valeur, on va pouvoir leur demander justement pour leurs infos, prendre un meeting, mais tout ça, c'est théorique. T'sais. Il faut quand même bien que ça fonctionne au final pour que ça se passe. Donc, quand les premiers leads, c'était super excitant de voir cette envie, ça fonctionne. Puis,
quelques jours in, c'est vrai.
Ouais, c'était vraiment rapide. Puis encore aujourd'hui, on est tout le temps content quand on voit nos clients, que ça fonctionne bien. Tu sais, les premiers leads des nouveaux clients, c'est toujours excitant parce que des choses qu'on a appris, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un certain volume pour que ça fonctionne. Ceci étant dit, comme tu l'as mentionné, il y a volume de visites sur le site web fois la valeur de ce qu'ils vendent. Des fois, il y a un de nos clients, il en a vendu juste un avec capture, mais c'est des gros, c'est des grosses ventes, fait que c'est hyper rentable quand même. Là.
Continue avec nous. Ils continuent avec nous malgré que le trafic n'est pas immense, mais il en faut un ou deux, puis ça peut justifier pour des années de service.
C'est ça, exact, exact. Ça a été quoi, d'après toi, le plus gros obstacle ou l'affaire qui a moins bien été? Je t'avoue qu'on ne s'en est jamais parlé de ça. Y a-t-il quelque chose que...
Le plus gros obstacle à quoi, spécifiquement?
Je sais pas, j'ai écrit ça dans mon cahier, mais comme question potentielle. Je sais pas, dans ta job ou dans le développement du produit, là... moi, pour toi, à te voir faire, parce que, en gros, comment on se divise la tâche à l'interne, c'est que rapidement, à partir d'un moment, je veux dire rapidement, dans l'évolution du produit, ma job, ça a été de ramener les clients, développer, marketer, faire les finances, vendre, puis toi, tu fais juste les opérations.
Comme je le dis comme ça. Service après vente un peu.
Ouais, je le dis comme ça de manière péjorative, comme si tu faisais juste une affaire. Mais c'est une blague. Et donc, à partir du moment que la vente est faite, le client va dans ta cour. Puis au début, il y avait beaucoup d'affaires manuelles. On avait un back-end que tu devais aller jouer dans faire des appels aux routes d'API. Fait que c'est sûr que c'était pas très efficient comme façon d'onboarder les clients.
Mais fallait le faire pour savoir quoi automatiser, comment optimiser. Je pense que c'est inévitable dans le processus, I guess. Mais le plus gros obstacle pour moi, ça serait initialement quand on n'était peut-être pas certain de comment l'expliquer au client, c'était quoi l'utilité spécifique du chatbot. C'est pas être une sorte de Wikipédia sur tout et répondre à tout. Le but est vraiment de savoir un peu sur votre entreprise, c'est quoi vos services, c'est quoi vos forces, répondre aux questions d'un client qui est déjà semi-intéressé et rapidement convertir. Et ça, la meilleure façon d'atteindre ça, c'est pas en l'inondant de connaissances et savoir tout sur tous les produits que vous vendez, le plus nitty-gritty. Et des fois, on vendait quelque chose que c'était pas dans l'intérêt ni du client, ni dans le processus de faire capture. Donc ça, je pense qu'on a rapidement appris comment bien setter les expectations et dire c'est ça qu'il faut que ça fasse pour que ça fonctionne bien, parce que c'est ça le produit qu'on sait pas... C'est pas comme multifacette comme chatbot. Le but est vraiment d'aller chercher les visiteurs et les transformer en clients potentiels. Et pour faire ça, il y a une méthode spécifique.
Donc, ouais, c'est ce qu'on a appris au fil d'enfer. Ça faisait partie effectivement des... En fait, je me disais qu'on devrait faire soit une publication, soit une vidéo, genre, tu sais, 5 erreurs à éviter lorsque tu fais un chatbot de capture de lead. Puis c'est... À la fois, ce que tu mentionnes là, c'est hyper intéressant, c'est que intuitivement, même nous, on se disait, mettons le plus d'informations possible dans la base de connaissances de l'outil, de l'agent IA, et le mieux, il va être capable de répondre aux questions. Je pense qu'il y a un double problématique là. Dans ma liste de 5 trucs à éviter, j'en mettrais peut-être 2 là-dedans. Le premier étant... Le chatbot de capture de lead ne peut pas être à la fois le chatbot de support client. Fondamentalement, dans la façon que tu le développes, le chatbot de support client, tu veux répondre le plus souvent à ses questions et le moins souvent prendre ses informations pour l'envoyer à l'agent. Et dans l'autre cas, tu veux le teaser un petit peu en bon français et rapidement prendre son contact. Fait que tu veux pas qu'il y ait trop d'informations, puis tu pourras pas faire les deux dans un seul outil. On a commencé à le vendre séparément, ces deux trucs-là. Là, on n'en a pas fait vraiment de support. On se niche sur le capture, là, mais c'est pas la même chose.
Le vendeur d'une entreprise ne sera pas le service client de l'entreprise. Ça va être
exactement, c'est ça.
Différent. Ça peut être la même personne, I guess, parce que les humains sont plus adaptables. Par contre, ça va être quand même deux postes séparés avec deux tâches spécifiques. Et la façon qu'un chatbot va être produit et créé, ça peut porter à confusion s'il est là pour faire les deux. Parce qu'il ne va pas vendre, il ne va pas répondre, il va essayer de prendre l'info ou pas de donner d'info. Donc, en exact. Ça, c'était un point que, lorsqu'on a vraiment compris ce point-là, ça a été un bon moment.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, grosso modo, habituellement, la documentation nécessaire est sur le site web. On n'en a pas tant besoin de plus. C'est plus la manière qu'on veut qu'ils répondent, qu'ils posent des questions de suivi, la manière qu'ils demandent pour le contact au bon moment. C'est là que je pense qu'on est capable de faire la différence. Parce que honnêtement, c'est un des trucs qui m'a surpris aussi, là, c'est le taux de conversion. À partir du moment que quelqu'un a une conversation avec le chatbot, il y a des clients avec qui on a des taux de conversion de 60%. En moyenne, c'est plus bas que ça. Parce que, évidemment, quand je parle d'une première statistique, c'est les meilleurs, c'est pas la moyenne. Puis honnêtement, tout le monde le fait, hein. Si jamais tu vois des chiffres, tout le monde le fait, là. Donc en moyenne, on est plus à 30-40%. Mais ça reste hyper élevé à partir du moment qu'il y a une discussion. Puis ce qui est le fun avec notre produit, c'est quand il donne après avoir eu de la valeur, après avoir répondu à des questions. C'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est super bien. Une chose que j'aime bien faire aussi et qui te met dans la barre parfois, c'est qu'à chaque fois qu'il sort un nouveau modèle, moi je suis comme « OK, nouveau modèle, let's go, on change tout, on met ce nouveau modèle, c'est mieux, pas cher. » Moi, je suis sur le feed marketing de tous les providers de modèles, puis là, on fait la connexion avec le nouveau modèle, puis là, ça marche pas nécessairement.
Autant bien. En effet, parce que chaque modèle a ses particularités, mais
le grass, c'est pas rendu, plus vert.
On est rendu plus robuste aussi sur les sortes de... Avant de faire des changements hâtifs, on va faire un peu plus de tests. On va s'assurer que le modèle, en effet, est réellement meilleur, ou plus vite, ou comprend mieux, ou les mêmes types d'instructions fonctionnent dessus, donc...
C'est ça, parce qu'il y a une affaire qu'il faut comprendre avec ce genre de technologie-là aussi, c'est que on dit le nouveau modèle est meilleur. Tu sais, premièrement, le GPT-4o, je pense qu'on est assez d'accord les deux pour dire qu'il est pas meilleur. Point. En tout cas, pour notre code d'utilisation. Dans notre code d'utilisation. Exact. Il n'est pas meilleur, il se répète, c'est pas fou. Les métriques il y a des métriques en ligne qui disent que c'est le meilleur. Personnellement, pour notre cas, ce ne l'est pas. Et il faut comprendre que il est peut-être meilleur. Puis c'est meilleur, c'est quoi, là? Je pense aussi faire une publication là-dessus, là. Quand on regarde un modèle, nous, on regarde la latence. On veut que ça réponde rapidement. Le coût. On veut que ça soit évidemment moins cher. Il y a des différences de coûts énormes entre le gros modèle peut coûter 15$ le million de tokens. Le petit de chez Google dernièrement est à 7 cents. Fait que, tu sais, pour la même réponse, 15$ ou 7 cents, c'est pas pour une réponse évidemment, mais juste pour montrer la différence. Fait que la latence, le coût, la qualité des réponses, comment on est capable de lui faire ce qu'on veut. Évidemment, il y aurait aussi potentiellement du prompt engineering à faire avec chacun des modèles. On regarde aussi la capacité à appeler, à faire des outils, là, des actions. Donc, dans notre cas, si on veut prendre le capturer le lead, l'envoyer au CRM, l'envoyer par courriel, machin. Tous les modèles sont pas aussi bons. Les modèles d'OpenAI sont très, très bons à faire ça. On a un peu de mal avec les autres. Et finalement, ce qui sont open source ou non. Là, dans certains cas, on aimerait ça justement utiliser plus, mettons, Llama pour des raisons de sécurité, machin, d'avoir les données, mais ces modèles-là, oui, sont bien dans certains cas, mais pour notre cas d'utilisation, ce n'est pas nécessairement les meilleurs modèles. Fait que je sais que mon côté, il faut que j'arrête d'arriver. Nouveau modèle, on arrête tout, on change tout, on passe à le nouveau shiny object du modèle, parce que des fois, ça donne des résultats qui ne sont pas les meilleurs. Sur l'optimisation. Ouais, le dernier truc à éviter qu'on a eu avec certains clients, c'est d'avoir... Ça revient un petit peu à l'aspect de documentation et à l'aspect de quel rôle le chatbot a, mais de genre vouloir sur-optimiser, avoir 3-4 call to action, passer des trucs vraiment trop sur-optimisés, ça sert à rien. C'est l'objectif, c'est de convertir quelqu'un qui l'amener à parler avec un humain. Peut-être tu peux nous en parler un peu, parce que c'est... Moi, je pèle tout souvent à ta cour, là. Ouais, ouais, on va le faire, là.
Ouais, ben initialement, je m'en rappelle dans les premiers meetings de vente, de un, par manque de connaissances sur la complexité et l'inefficacité de faire beaucoup de call to action, et de deux, la volonté de dire, ben oui, on peut le faire, parce qu'on savait qu'on pouvait le faire et on voulait satisfaire le client. On s'est rendu compte rapidement que si la personne demande A, il faut que tu fasses B. Si la personne demande C, il faut que tu fasses D. Et ça va mêler rapidement le chatbot. Ça peut mêler aussi l'utilisateur qui doit passer par plusieurs types de questions de triage au lieu de juste « C'est quoi vos services? Je suis intéressé par service A. Parfait, laisse ton nom, ton email, quelqu'un va te contacter. » Et ensuite, la personne le contacte en lisant la conversation, sachant que telle personne est intéressée par tel service, et elle peut closer la vente. C'est beaucoup plus efficace que le chatbot doive passer par plusieurs étapes de qualification quand, au final, c'est non optimal dans la conversion de visiteur à lead qualifié. Donc, initialement, on pensait que c'était mieux de pré-qualifier extrêmement bien, quand on s'est rendu compte que rapidement, au final, si la personne est intéressée puis elle laisse son nom, son email, ben, elle est quasiment déjà rendue à vouloir être client. Donc, tout ce qu'il lui faut, c'est un humain pour venir closer cette vente-là. Donc, ça, c'était aussi dans la courbe d'apprentissage de se dire le pas besoin vraiment de passer à travers... toutes ces questions de qualification. Faut que la personne donne son nom, c'est donné à quelqu'un, la personne le close, et c'est très efficace de cette manière. À date, c'est nos clients les plus efficaces, c'est ceux avec un le call to action direct.
Ouais, exact, c'est ça. Ben, c'est comme un peu une page web. Hein. Si t'arrives avec une page web, il y a 4-5 appels à l'action différents, tu vas te mélanger, tu vas peut-être pas le prendre. S'il y a un truc assez clair, t'es capte. Puis tu sais, dans la majorité des cas, surtout pour nous, on est dans du B2C ou du high ticket items ou du B2B. Tu sais, il y aura pas 1000 leads par jour, là. C'est pas, t'as pas un volume tellement élevé que genre tu peux pas répondre. Puis même dans des cas, on est en train de montrer un cas où il y a beaucoup de succursales. Ben là, c'est possible de genre la personne donne son code postal, puis on va aller router. En bon français, encore une fois, le lead à la bonne place sans avoir à monter un système très complexe là, pour faire des appels à l'action. Mais ça, je pense que le routing, ça peut être super intéressant, justement, pour ça, des trucs de succursales. Ça peut être très c'est pertinent de ce niveau-là. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que tu sois capable de lire les instructions, puis si toi-même, tu serais pas capable de répondre, ben le modèle ne sera pas capable. On a aussi été... En fait, ça, tu sais, avec les mois, on est aussi capable de voir des stats, des résultats attendus, ce qu'on ne pouvait pas vendre au début, dans le sens que c'était très théorique, dans le sens que on se disait, ben, déjà, on est sur ton site, puis ils vont peut-être convertir, tu sais. Tandis que là, on a plus une idée concrète de ce qu'il y en est. Peut-être tu peux un peu nous en parler. Est-ce que quelqu'un nous écoute? À quoi il peut s'attendre comme résultat avec un chatbot de capture de lead?
Ouais, exact. Donc, le premier, mettons, le premier client, le deuxième, le troisième, c'est peut-être on a eu un mois d'utilisation avec deux, trois clients. C'était pas assez pour vraiment bâtir des statistiques. Maintenant, 8 mois plus tard, avec des dizaines de clients, on commence à voir les chiffres. On a fait une analyse justement de combien de visites, combien de conversations, combien de conversions. Et ensuite, on estime le taux de closing de l'entreprise. Mais on voit que en moyenne, 1 à 2% des visiteurs du site web vont ouvrir le chatbot et discuter avec. On blâme surtout les anciens mauvais chatbots pour ce bas taux de discussion parce que à ce jour, quand on fait de la prospection pour voir quelqu'un qui serait possiblement intéressé par capture, on va sur leur site web, on voit un chatbot, on ouvre le chatbot et automatiquement, soit c'est un formulaire directement ou tu poses une question et c'est comme un arbre de décision. Donc, il ne comprend pas, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière et rapidement, il fait juste te demander ton nom, ton email sans t'avoir répondu à quoi que ce soit ou mal t'avoir répondu. Donc, c'est vraiment notre... On blâme eux pour ce 1 à 2%. Mais ensuite, suite au 1 à 2% de discussion avec, on voit un taux de conversion, comme Charles a dit, jusqu'à 60-65% chez notre client le plus efficace, le chatbot qui est le plus efficace sur site web, avec une moyenne d'environ 30% de conversion des discussions à une piste qualifiée, un lead qualifié. Et ensuite, on estime qu'une entreprise close 30% du temps ou 50% du temps, on n'a pas... Ça, c'est des chiffres qu'on estime dépendamment des différentes industries. Donc, on peut rapidement voir si une personne a environ 1000 visiteurs par mois, 1%, donc 10 discussions, 5 leads qualifiés à la fin du mois. Ensuite, il en close une ou deux, ça vaut quelques milliers. Donc, c'est ça qu'on voit comme statistique. Il y a aussi un bonus, de la valeur ajoutée à ça, c'est qu'on voit les réelles questions que les gens posent. Un vrai « frequently asked questions » parce que c'est réellement des gens qui posent des questions et ça peut donner une idée sur qu'est-ce qui manque sur ton site web, quel type des gens qui vont poser sur un service que tu n'offres pas. Est-ce que vous faites ça? Non. Est-ce que vous faites ça? Non. Tu te rends compte que tout le monde veut ça. Tu peux par la suite voir si ça rentrerait dans ta stratégie de possiblement rajouter ça comme service si c'est connexe. Donc, ce qu'on voit en effet, c'est ça, environ 1 à 2 % ensuite un 30 % de conversion de tout ça.
Ouais, exact, c'est ça. Puis, c'est quand même intéressant parce que tu sais, pour du B2B, tu sais, tu as 1000 visiteurs, tu vas avoir 20 conversations par mois, une douzaine de 6 à 12 leads par mois qui rentrent. Ça peut rapidement être un service extrêmement, extrêmement rentable. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'automne là? Qu'est-ce que tu penses qui peut intéresser les gens côté feature? C'est sûr qu'on a des trucs dans le pipeline. Entre autres, je pense à ça, on a la carte d'affaires intelligente qui est une version partageable, ce que Alex disait, le 1 à 2%, c'est un truc qu'on travaille beaucoup dessus pour augmenter le nombre de personnes qui le visitent. On pense d'avoir, faudrait qu'on vous le montre, là, mais l'idée, c'est d'avoir un lien un peu à la Calendly qui est partageable, qui a toutes tes informations, un peu un Linktree aussi, puis qui a aussi ton chatbot AI dessus, fait que tu peux partager si les gens ont des questions à n'importe quel moment. Ils peuvent aller dessus, puis de ça, tu peux le partager ça, sur ton LinkedIn, dans ta signature ou ailleurs, donc sur tes réseaux sociaux. On le connecte maintenant aussi avec Facebook, Instagram, donc encore une autre façon de faire augmenter le nombre de conversations. Finalement aussi, on a incorporé Message Text qui nous permet de avoir d'autres façons de communiquer avec les gens. On pense, en fait, on est en train de développer un qualificateur. Donc, une fois que la personne a pris rendez-vous, par exemple, sur ton Calendly ou dans n'importe quel formulaire, d'y envoyer un message texte directement, y poser des questions de qualification avant la rencontre, donc ton vendeur pourra aller voir la discussion et aller chercher l'information, puis augmenter le taux de closing derrière grâce, encore une fois, à Capture. T'as-tu d'autres affaires, Alex, qu'on aimerait ça, qu'on travaille en ce moment?
On travaille sur, oui, ben dans le fond, la connexion Facebook et autres produits Meta est déjà faite. Le message texte est en processus. On va trouver quelqu'un que ça fonctionne. On le connecte à plusieurs CRM aussi, comme ça, la piste à rentrer directement dans le CRM de la personne. On en a fait plusieurs sortes différentes. Elles sont toutes relativement similaires dans la façon que le lead, les types d'informations qu'ils ont besoin. En effet, la carte d'affaires intelligente, c'est vraiment juste une bonne façon d'augmenter les visites. Je ne sais pas si on a d'autres produits. Non, je pense que c'est pas mal ça pour l'instant. Évidemment, dans le fond, dans l'entonnoir de capture, il y a le nombre de monde qui vient sur ton site web, le nombre de monde qui parle avec le chatbot, la quantité de personnes qui sont converties et par la suite, combien de ces convertis tu vends ton produit à eux. Donc, à la fin, ça, c'est hors de notre contrôle. Combien de monde viennent sur le site web, c'est également hors de notre contrôle. Mais combien de personnes parlent au chatbot, ça, c'est avec la personnalisation des messages pop-up, une animation, on peut changer aussi le logo juste pour venir attirer l'attention. Donc, ça, on peut travailler dessus pour que plus de monde y parle. Avec les liens partageables, en le mettant sur Facebook, on augmente aussi l'audience possible. Donc, ça travaille sur le monde, la quantité de monde qui parle. Ensuite, pour la conversion, ben ça, c'est en travaillant justement, encore une fois, le produit, le prompt, le type de questions, essayer des modèles différents, plus intelligents, pour venir engager de meilleure façon, justement, les gens qui discutent avec, pour venir le capturer et ensuite le donner aux vendeurs de l'entreprise. Donc, nous, on travaille sur les segments qu'on peut. Et voilà.
Cet automne, on va aller chercher 100 nouveaux clients.
En automne, il faut jusqu'à décembre.
Ce serait mon cadeau de Noël, en fait, si on est capable d'augmenter fortement le nombre de clients. On avait dit 50 000 de revenus récurrents par mois en 2024. Est-ce qu'on va l'atteindre? Je sais pas. J'espère. Ça va être tough. Ça va te faire beaucoup de jobs
En effet,
d'onboarder tout le monde.
mais on est rendu meilleur. On sait quels aspects peuvent être automatisés ou du moins que j'ai un outil plus efficace.
Exact.
À 130, mais c'est. Je suis prêt pour le challenge, en effet, pour l'automne. On est rendu meilleur à vendre, on est rendu meilleur à livrer, on est rendu meilleur à optimiser post-vente. Donc, je pense que tout ce qu'on a appris dans les derniers 8 mois peuvent être bien implémentés en automne, lorsque justement il y a un renouveau dans le côté d'entreprise Québec suite à l'été, que c'était quand même une période un peu plus creuse. Donc, je suis prêt pour le challenge.
Let's go!
Ça fait longtemps qu'on n'a pas
Côté,
de.
c'est ça. Sinon, côté marketing, on va continuer on va repartir, en fait, de faire plus de publications, là. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui marchait assez bien, mais que j'avais arrêté, un peu par manque de temps. Quand tu vends, que tu développes, puis que tu fais tout, c'est un peu plus compliqué. Mais là, on a Guilhem, qui est développeur chez nous, qui est gradué en génie logiciel. On a d'autres. Deux personnes qui nous aident aussi côté aux ventes. Donc, on donne tout. Puis, ça me laisse un peu plus de temps pour créer du contenu. Donc, cet automne, je vais essayer de vous partager plus de trucs sur notre chemin vers le 50 000 de revenus récurrents par mois. Let's go! T'as-tu la petite cloche? Je donne la petite cloche. On n'en a pas sonné depuis longtemps.
C'est vrai qu'on a changé de bureau, là. L'ancien bureau, c'était plus Donc, petit bureau, pas de fenêtre. Là, on a déplacé, mais on n'a pas revissé. Mais quand on, au début, vous pouvez voir les anciennes vidéos, quand on faisait une vente très excité, on sonnait la cloche.
Let's go!
Let's go!
On est moins excité maintenant. Mais il faudrait recommencer à...
Il faudrait retrouver l'excitation du début.
L'excitation! Let's go! Ok, ben écoute, merci pour ton temps, Monsieur Ratchev, même si je t'ai obligé et je t'ai booké, et merci d'avoir pris le temps. Continuez à nous suivre, on va faire des mises à jour sur les réseaux sociaux, sur mon LinkedIn, le plus souvent possible pour vous tenir au jus, puis on donne tout. Allez là!
Let's go.